France Culture.
Et le journal est présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Peut-on enfin imaginer la fin de la guerre à Gaza? Les négociations entre Israël et le Hamas débutent aujourd'hui en Égypte autour du plan de paix de Donald Trump. Quelles étapes, quel calendrier? On fait le point dès le début de ce journal. Jour de vote en Syrie, c'est la première élection organisée depuis la chute de Bachar al-Assad, élection législative, mais certains redoutent le manque de représentativité du scrutin. En France, nous reviendrons sur la saignée de l'industrie automobile avec les premières fermetures ponctuelles d'usines Stellantis. Nous serons avec Bernard Julien, économiste et spécialiste de l'industrie automobile. Et puis, il faudrait recruter 44 millions d'enseignants dans le monde d'ici 5 ans. La crise de la vocation est globale et les conditions de travail se dégradent. C'est donc en Égypte que se joue l'avenir du Proche-Orient. La réunion entre les négociateurs israéliens et le Hamas débute aujourd'hui au Caire. Sont également sur place l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, pour discuter donc du plan de paix pour Gaza. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Mathilde.
Vous suivez ces négociations indirectes. Il faut d'abord, Thibault, se concentrer sur les enjeux à court terme.
Oui, sur cette première phase des négociations, avec donc cet enjeu évident, il faut tout simplement rendre possible l'échange d'otages et de prisonniers. 48 otages israéliens d'un côté, dont 20 présumés vivants, 250 prisonniers palestiniens de l'autre, qui purgent des peines de prison à vie, ainsi que 1700 Gazaouis arrêtés après le massacre du 7 octobre 2023. Le plan Trump donne 72 heures aux belligérants pour procéder à cet échange, mais seulement à partir du début d'un cessez-le-feu qui n'a pas encore été décrété. Pas d'échéance précise donc pour le moment. Un mot Mathilde sur le calendrier. Aujourd'hui c'est la préparation du sommet. Tous les participants ne sont pas arrivés et notamment le négociateur en chef du Hamas, Khalil Alaya. Du côté de l'État hébreu, c'est l'éminence grise de Benjamin Netanyahou, Ron Dermer qui mènera les discussions. À noter, vous l'avez dit, la présence de Jared Kushner et de Steve Witkoff. Casting XXL donc, réunis dans des pièces différentes pour des négociations indirectes, cruciales, qui pourraient se décanter dans la journée de demain.
Et il faudra ensuite discuter des phases suivantes inscrites dans le plan de Donald Trump. Et c'est là, Thibault, que des points de blocage risquent d'apparaître.
Oui, ce sont des questions essentielles qui devraient être mises sous le tapis pour le moment. Alors d'abord, il y a la question du jour d'après. Pour aller vite, le plan Trump prévoit une administration technocratique arabe pilotée par un comité dirigé par lui-même. Le Hamas veut, lui, participer à une gouvernance palestinienne. Et puis l'autre interrogation, ce sont les armes. Donald Trump envisage de complètement nettoyer la bande de Gaza. Le Hamas, lui, veut négocier, là encore, avec d'autres factions palestiniennes, un désarmement partiel.
Merci Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Par ailleurs, un premier groupe de militants arrêtés à bord de la flottille pour Gaza devrait quitter Israël aujourd'hui. 21 ressortissants espagnols sur 400 personnes arrêtées au total. Pendant que l'on discute de son plan de paix au Proche-Orient, Donald Trump a autorisé l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago cette nuit pour lutter, dit-il, contre les ravages de la criminalité. C'est la 5e ville démocrate concernée par ce genre de mesures. Cependant, à Portland, une juge fédérale a bloqué cette décision, considérant que les manifestations pouvaient être gérées par les forces de l'ordre régulières. En Syrie, les élections législatives sont organisées aujourd'hui. C'est le premier scrutin depuis la chute de Bachar al-Assad il y a 10 mois. Après 14 ans de guerre, 50 ans de dictature, ces élections marquent une étape clé dans la transition vers un nouveau régime. Mais le mode de scrutin suscite des inquiétudes, Omar Waman, quant à la représentativité de la future assemblée.
Cette nouvelle assemblée qui sortira des urnes ce dimanche sera dotée d'un mandat de 30 mois seulement. Un parlement de transition qui donne des indications sur l'état de la Syrie bientôt un an après la fin de la dictature. Pour des raisons sécuritaires, les nouvelles autorités ont décidé de reporter ces élections dans une large partie du nord-est de la Syrie, notamment à Raqqa et à Assaké, contrôlés par les Kurdes, mais également dans le sud de la Syrie, tenus par les Druzes, deux territoires quasi autonomes en lutte pour un État décentralisée. Les deux tiers de la nouvelle assemblée seront désignés par des comités locaux et le reste nommé par le président intérimaire Ahmed Al-Sharaa, un mécanisme jugé antidémocratique par l'opposition qui dénonce une concentration excessive des pouvoirs et un manque de représentativité des composantes ethniques et religieuses du pays.
Sur le front de la guerre en Ukraine, les frappes de la nuit ont fait plusieurs morts du côté de Lviv dans l'ouest du territoire. C'était jusque-là la région la plus épargnée par les bombardements russes. Par ailleurs, l'armée polonaise annonce le déploiement d'avions dans les régions proches de l'Ukraine afin de protéger son espace aérien. Ni immobilisme, ni passage en force. Voilà en clair la ligne de conduite de Sébastien Lecornu. En tout cas, c'est ce qu'il a écrit dans une lettre adressée cette nuit aux députés et sénateurs du socle commun. Une feuille de route avant son discours de politique générale. Il y évoque ses priorités, le budget, la santé, ainsi que quelques mesures déjà égrenées ces derniers jours. Il appelle donc sa coalition à l'unité avant de dévoiler son gouvernement. Celui-ci est suspendu à la décision des Républicains. Lesquels doivent dire si oui ou non ils participent à cette coalition. Ils se réunissent à 14h30, le Modem et Horizon également. Et puis ce gouvernement n'est pas encore nommé, qu'il est déjà menacé. Les Insoumis annoncent qu'ils déposeront une motion de censure mardi, dès la fin de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. C'est un nouveau coup de massue pour l'industrie automobile française. La fermeture annoncée fin septembre de plusieurs sites de production chez Stellantis. Les premières usines concernées, Sochaux, Mulhouse, ferment leurs portes dès ce soir pour seulement 24 heures, mais c'est amené à se répéter. Et puis du 13 au 31 octobre, c'est l'usine de Poissy qui va rester complètement fermée. Bonjour Bernard Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile. Bon, l'idée c'est que le marché européen de l'automobile ralentit, que rien ne sert de produire des voitures qui vont rester invendues sur le parking. Pourquoi, selon vous, un tel ralentissement à l'échelle européenne ?
Alors à l'échelle européenne, il y a un effet évident, c'est que les prix ont beaucoup grimpé pendant le Covid et qu'ils ne redescendent pas très vite. Hein. Donc avec des prix qui ont augmenté, dans le cas français par exemple, de 25%, il n'est pas très surprenant pour un économiste qui sait que la courbe de demande, elle est inverse des prix, qu'on ait une demande qui soit en berne. Hein. Donc tant que les constructeurs ne réajusteront pas leurs prix à la baisse, il y a fort à parier que les 3 millions de voitures qui manquent aujourd'hui en Europe manquent. Hein. Et ça génère ce que les spécialistes appellent des surcapacités. Hein. Les surcapacités, c'est qu'on aura la capacité de produire beaucoup plus de voitures que le marché n'en demande. Hein, et c'est à ce problème-là que toute l'industrie est confrontée, avec quand même une nuance forte côté Stellantis, puisque Stellantis rajoute des difficultés spécifiques aux difficultés générales, si je puis dire.
Les constructeurs parlent également d'incertitudes, notamment autour des véhicules thermiques que l'Europe veut interdire d'ici 2035. Eux disent que c'est trop court pour passer à l'électrique. De fait, c'est trop court.
Oui, alors ils le disent pour essayer de jouer de la crise, si vous voulez, ou de jouer du ralentissement de la demande pour obtenir ce qu'ils ont déjà obtenu, c'est-à-dire des assouplissements. Donc là, ils ont obtenu des assouplissements sur 3 ans, 25, 26, 27, plutôt que de se voir obligés de respecter les obligations dès 2025. Donc l'idée, c'est que ayant obtenu cela, ils pourraient espérer obtenir cela à nouveau pour 2030 et pour 2035, et donc il y a un jeu, si vous voulez, autour de cela. Il me semble quand même que si crise il y a, c'est beaucoup moins à cause de l'électrique qu'à cause des prix pratiqués par les constructeurs eux-mêmes sur les produits, puisque la crise, elle vient de ce défaut de volume que j'évoquais il y a un instant, et ce défaut de volume-là, ça n'est pas l'électrique qui représente 10 ou 15% de la demande qui le représente, mais c'est le reste.
Est-ce qu'il y a une possibilité que les usines en question, Sochaux, Mulhouse, Poissy, il y en a d'autres à l'étranger, ferment définitivement dans un futur proche ?
Alors, dans la configuration de Stellantis à proprement parler, il y a le fait qu'ils perdent non seulement comme les autres, mais ils perdent beaucoup plus que les autres parce que leur part de marché baisse. Si c'est le cas, c'est parce qu'ils ont été trop loin dans l'augmentation des prix. Si c'est le cas, c'est qu'ils ont aussi des gros problèmes de qualité. Qui plombent leur capacité à vendre des produits aux ménages et aux entreprises du reste. Donc ça se traduit effectivement par le fait que chez Stellantis, ils vont probablement gérer une crise plus importante. D'ailleurs, Stellantis perd de l'argent alors que le reste de l'industrie continue d'en gagner.
Sur l'ensemble de l'industrie automobile, on parle de 40 000 postes supprimés ces 5 dernières années, 75 000 supplémentaires d'ici 10 ans. Luc Châtel, le représentant de la filière, parle d'une nouvelle saignée de l'industrie automobile. Est-ce qu'elle est amenée à disparaître ?
Non, l'industrie automobile française, elle souffre à la fois de cette baisse des volumes et puis du fait que les constructeurs automobiles français continuent de délocaliser assez massivement. Donc les voitures qu'on ne fait plus ici, on les retrouve quand même au Maroc, on les retrouve quand même dans les pays d'Europe centrale orientale. Le site France, si vous voulez, il est réduit à la portion congrue. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la crise, elle affecte la France au premier chef. C'est très clair que la France perd encore des parts de la production européenne dans les dernières années. Là, évidemment, l'espoir, c'est que l'électrique permette à la France de relever un peu le nez, puisqu'a priori, il y a un certain nombre de véhicules qu'on avait tendance à faire en Turquie ou ailleurs, qu'on va se mettre à faire en France, comme c'est le cas pour la R5 chez Renault. Donc il y a peut-être une petite lueur d'espoir qui naîtrait de l'électrique, si je puis dire, dans le cas français.
Merci Bernard Julien d'avoir été l'invité de France Culture ce midi. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et spécialiste de l'industrie automobile. En voilà une autre de crise, celle de l'enseignement. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale des enseignants et force est de constater que les besoins sont immenses. Il faudrait recruter 44 millions de professeurs dans le monde dans l'espace de 5 ans. Les deux tiers de ces recrutements concernent l'Asie et l'Afrique subsaharienne. Comme quoi, Sonia Princé, la crise de la vocation n'est pas qu'un problème français.
La profession va mal et cette crise d'attractivité du métier d'enseignant est générale selon Boren Chakroun, directeur de l'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO.
La société n'apprécie plus de la même manière l'enseignant. Et ça, c'est valable partout. Ce métier qui est vu comme un travail seul dans sa classe est un métier qui n'est plus valorisé. C'est le point commun, si je peux me permettre le terme, parce qu'au niveau des salaires, par exemple, on va trouver certains pays où il y a des salaires assez élevés des enseignants. En Allemagne, les enseignants sont bien payés. Au Togo, en Côte d'Ivoire, les enseignants sont bien payés.
Mais des salaires plus élevés ne suffisent pas. Les conditions de travail, la considération comptent beaucoup. Aujourd'hui, la pénurie d'enseignants est accentuée par un autre phénomène. En moyenne, au niveau mondial, près d'un enseignant sur 10 a démissionné en 2022. C'est le double par rapport à 2015.
Et ce qui est plus grave, c'est que les jeunes aussi qui rentrent dans le métier sortent pendant les premières 5 années. Même un pays comme la Finlande, qui a quand même des conditions très favorables par rapport aux enseignements et aux enseignants, environ 22% des jeunes enseignants quittent le métier pendant les premières 5 ans.
Un métier en crise, mais qui va forcément évoluer, avance l'UNESCO, qui mise sur le numérique et sur les enseignants eux-mêmes pour inventer de nouvelles pratiques pédagogiques.
Sonia Princé, une enquête ouverte à Dunkerque. Le parquet se penche sur des violences, signalées violences aggravées sur des exilés. 4 hommes, a priori des groupes d'extrême droite militants britanniques, auraient attaqué un groupe de migrants à Grand Fort Philippe, il y a un mois, leur disant qu'ils n'étaient pas les bienvenus. En Angleterre, l'affaire avait été relayée par le collectif Utopia 56. Enfin, avis aux passionnés de street art, de rap ou de breakdance, le Freestyle Villette a ouvert ses portes hier à Paris. 1000 mètres carrés d'exposition consacrée à la culture hip-hop. Cette nouvelle maison des cultures urbaines a été portée par Rachida Dati, la ministre démissionnaire de la culture. Petit bémol, Faouzi Trita, il y avait déjà un espace de ce type à Paris.
À Paris, dans le quartier des Halles, le centre culturel La Place, qui est un équipement de la mairie depuis presque 10 ans, a bien du mal à rayonner. Il y a un manque de communication et le lieu est surtout fréquenté par des initiés. Avec un autre temple des cultures urbaines à Paris-la-Villette, les deux structures vont forcément entrer en concurrence. Mais ce qui gêne Benjamin Veil, philosophe de formation et autrice du livre « À qui profite le sale ?», un livre sur le rap français, c'est l'impulsion politique de ces deux endroits.
Ah ben c'est hyper étiqueté Dati qui, je ne peux pas m'empêcher moi de faire le lien avec la possibilité qu'elle se présente à la mairie de Paris. Et la place Centre culturel hip-hop est le fruit de Hidalgo, maire de Paris. Donc est-ce qu'on n'est pas sur un enjeu aussi de guerre à la mairie de Paris en fait autour de ces espaces. Et on a vu qu'à chaque fois que des artistes ont frayé avec les institutions, on leur a demandé quelque part de lisser leur approche.
Mais d'une manière générale, Benjamin Veil est contre l'idée d'enfermer la culture hip-hop.
De fait, cette culture est une culture plutôt horizontale que verticale quand l'institution a une tendance à un fonctionnement plus vertical. L'appropriation institutionnelle est déjà une manière de faire rentrer le hip-hop dans des murs quand c'est particulièrement une culture du hors les murs.
L'autrice regrette aussi que cette maison des cultures urbaines soit aussi celle de la musique électronique, car s'il y a aujourd'hui des interactions, le public des deux courants n'est pas du tout le même.
Enfin, 3 heures d'entretien avec Robert Badinter. Lina publie aujourd'hui des extraits d'une interview exclusive enregistrée en 2006. On y entend l'ancien garde des Sceaux à l'origine de l'abolition de la peine de mort évoquer ses mémoires d'enfant de déporté. Robert Badinter fera son entrer au Panthéon jeudi prochain. Le temps de cet après-midi va se dégager légèrement dans le sud et l'ouest. Quelques nuages encore passagers sur la Bretagne et de la pluie qui persiste dans le nord et le nord-est. Les températures à la mi-journée sont comprises entre 11 et 22 degrés. Il fait 13 à Strasbourg, 15 à Lille, 15 également à Brest, Lyon, Limoges. Et ça se réchauffe un peu sur le pourtour méditerranéen avec 19 à Marseille et 22 à Nice.